Chapitre 7. Qui dois-je annoncer?
Dites à Monsieur Minguier que Vincent est là. Il comprendra.
Le majordome reçoit l'information avec une moue dubitative. Je vous prie de bien vouloir patienter. La formule de politesse lui a demandé un effort. L'employé de maison tourne les talons, non sans avoir discrètement fait signe à une servante de rester présente dans l'entrée. Hors de question de laisser sans surveillance un individu qui ne se présente qu'avec un prénom. Par les temps qui courent, les malhonnêtes osent tout. La jeune fille ne sait quelle attitude adopter. Plantée là, les mains sagement croisées sur son tablier, elle l'observe du coin de l'œil, à la fois charmée par son physique et perturbée par son accoutrement inhabituel et le fait qu'il ne porte aucun chapeau. L'aurait-il perdu en venant? Comme à son habitude, Vincent étudie le nouvel environnement qu'il découvre. Il a déjà eu l'occasion de remarquer que, dans les grandes maisons, si c'est une gouvernante qui vous ouvre, cela dénote un train de vie très élevé. Si par contre c'est un majordome, il l'est encore davantage. L'adresse est prestigieuse. Avenue Malakoff, non loin du bois de Boulogne, du Trocadéro et de l'Arc de Triomphe. À quelques numéros de là, vit l'inventeur de la dynamite, Alfred Nobel, que ses voisins détestent parce qu'ils craignent que le Suédois ne fasse exploser le quartier en pratiquant ses expériences dans le laboratoire qu'il s'est fait construire sur sa propriété. Monsieur Minguier, lui, n'a pas eu peur de s'installer au cœur de cet arrondissement qui, bien loin des taudis vétustes, attire d'abord ceux qui souhaitent se faire remarquer. Les nouveaux riches se collent aux vraies fortunes. Dans une époque qui fait la part belle à la prétention, il est flatteur d'être invité dans ces luxueuses demeures et encore plus d'en posséder une pour y recevoir. Vincent passe au crible le hall d'accueil, révélateur de l'image de puissance que le propriétaire cherche à donner de lui-même. Ce que l'on remarque d'abord, c'est ce lustre monumental, entièrement fait de chaînes d'acier. En d'autres lieux, elle serait assez grosse pour hisser de lourdes charges ou retenir un bateau, mais ici, elles ne sont que décorations. Les dimensions imposantes dégagent cependant une curieuse impression d'harmonie, et le décalage entre la forme classique et le matériau laisse rêveur. Là où d'autres exhibent du cristal, l'industriel a décidé de mettre en valeur ce qu'il fabrique. Tout autour, sur les murs, sont accrochées de spectaculaires toiles de bataille, dont une perdue par la France, ce qui pourrait passer pour une faute de goût chez les républicains. Entre deux tableaux, les armoiries d'une noblesse à laquelle l'industriel n'appartient pas, et plus étonnamment, en dessous, deux grandes photographies d'usines. Vincent s'approche pour mieux voir. Sur la devanture, on peut lire « Minguier et Belair, fabricants des meilleures chaînes à maillons soudés ». Vincent n'a pas souvent eu l'occasion de voir des clichés photographiques dans sa vie, surtout si grands, d'autant qu'il est rare de les exposer ainsi. C'est extrêmement moderne. Il est encore en train d'étudier les images, quand déjà, le majordome réapparaît, visiblement déconcerté.
Veuillez me suivre, Monsieur Minguier va vous recevoir.
Il paraît surpris d'avoir à dire cela. Par habitude, il fait signe à la servante de débarrasser le visiteur, mais se ravise. Ni manteau, ni couvre-chef. Le gaillard est décidément louche. Un petit homme à la mine ronde et rougeaude débouche du couloir et vient à leur rencontre, la main tendue.
Monsieur Vincent, ravi de vous rencontrer enfin.
Mes respects, Monsieur Minguier. La poignée de main pourrait paraître franche si elle n'était pas exagérément appuyée. Elle révèle une technique plus qu'un caractère, une vraie poignée de main d'homme d'affaires. L'industriel plaisante aimablement.
Vous êtes plus difficile à rencontrer que le commissaire de l'exposition universelle.
Je vous en demande pardon. Le formalisme et la retenue dont Vincent fait preuve contrastent avec la joviale spontanéité du bonhomme qui l'invite à passer dans son bureau.
Entrez, je vous en prie.
Il lui désigne un fauteuil
et ajouta l'intention de son employé. « Joseph, que l'on ne me dérange pas, et pour une fois, ne vous avisez pas d'écouter aux portes. » Joseph est outré, mais son maître s'en moque. Le majordome disparaît. Dès la porte close, les deux hommes s'installent face à face.
« Un cigare ?» propose Minguier.
« Non merci, je ne fume pas. »
« Moi non plus, sauf pour faire comme les autres. Le cigare est en vogue dans l'industrie, sans doute parce que les patrons veulent produire autant de fumée que leurs usines. »
L'homme rit de sa propre remarque.
« Que puis-je pour votre service, monsieur Minguier ?»«
Vous avez raison, ne perdons pas de temps. »
L'homme se redresse sur son siège pour se pencher vers son interlocuteur. Il baisse d'un ton et articule gravement.
« Entendons-nous bien, tout ce que nous allons évoquer ici est absolument confidentiel. »
« C'est évident. Vous avez ma parole et cela le restera, que nous fassions affaire ou non. »
Alfred Minguier hoche la tête, appréciateur, et commence.
« C'est une histoire particulière qui me préoccupe. Et lorsque j'ai appris votre existence, j'ai tout de suite pensé que vous étiez l'homme de la situation. Je m'explique. J'ai hérité d'une maison ancienne qui a pour moi une importante valeur sentimentale. Par le plus grand des hasards, voilà quelques mois, j'ai découvert qu'elle renferme un passage secret. Mais rien ne m'a été transmis sur la façon de l'ouvrir. Je me retrouve ainsi à savoir qu'il est là, sans en maîtriser l'usage. Vous comprenez mon problème.
Le mécanisme est-il bloqué? Vous souhaitez le faire changer?
Avant d'en arriver là, j'aimerais que vous puissiez le faire fonctionner.
Vous n'avez connaissance d'aucun élément sur le mode opératoire?
Aucun.
Avez-vous au moins une idée de son utilité?
Étant donné le passé de la bâtisse, j'imagine que ce passage mène à une cache secrète, mais je n'ai même aucune certitude sur ce point.
Quand ce passage a-t-il été ouvert pour la dernière fois?
Pas la moindre idée. La vétusté des meubles entreposés devant peut permettre d'estimer qu'il a sans doute été fermé voilà plus d'un siècle.
Un siècle, fichtre. Comment en êtes-vous venu à soupçonner l'existence de cette pièce cachée?
Minguier semble surpris par la question. Il hésite.
J'ai relevé des allusions dans la correspondance des anciens propriétaires.
Vincent note que son interlocuteur a soigneusement pesé chaque mot de sa courte réponse. Le sujet est donc sensible.
Ces évocations mentionnaient-elles quoi que ce soit sur la façon d'y pénétrer?
Pas un mot. Je me retrouve, au sens propre, devant un mur que je suis incapable de franchir.
Avez-vous essayé de le forcer? Après tout, vous êtes chez vous et vos industries doivent vous en donner les moyens mécaniques.
Minguier secoue la tête.
Je crains que l'accès n'en soit piégé. Si nous tentons de nous frayer un chemin par la violence, le contenu pourrait être détruit par, j'ignore quel sortilège, le feu, l'inondation ou l'ensevelissement, que sais-je. Je ne peux pas courir le risque.
Je comprends. Vous attendez donc de moi que je déjoue les systèmes qui verrouillent l'ouverture pour en retrouver l'accès.
Exactement. Puis-je vous demander si vous avez une idée de ce que vous êtes supposé trouver derrière, monsieur Minguier?
L'homme est pris de court.
Suis-je obligé de vous répondre?
Certes pas, mais cela me semble préférable. Il existe souvent un lien entre la valeur du contenu et la complexité des moyens déployés pour le protéger. Pour vous conseiller et organiser les recherches sans dépenses inutiles, évaluer ce paramètre et disposer de toutes les informations peut m'aider.
N'ayez crainte, je sais garder des secrets.
L'idée d'évoquer ce que renferme la cache rebute à l'évidence l'industriel.
Je ne suis pas certain de ce que je vais y découvrir, dit-il à contre-cœur. Disons que cela peut s'avérer essentiel pour moi.
Je vous confierai ce que je sais en temps opportun. Je veux d'abord savoir si cet engagement entre dans vos compétences. C'est la première étape.
Depuis mon adolescence, je me consacre à tout ce qui touche aux passages secrets et à leurs mécanismes. J'ai étudié les chefs-d'œuvre des maîtres en la matière et je m'efforce d'être l'interprète de leurs talents. D'ordinaire, on me recrute pour en construire, non pour découvrir les arcanes de ce que d'autres ont créé. J'avoue que votre défi est inédit pour moi, mais cela me tente. Je ne peux guère chanter mes propres louanges, mais je suis au moins certain de ne connaître personne qui s'intéresse à ce sujet plus que moi.
C'est ce que mes sources m'indiquent en ne tarissant pas d'éloges. J'ai cru comprendre que vous travailliez avec une équipe.
En effet.
Sont-ils sûrs?
Je réponds de mes hommes comme de moi-même. Mais leurs spécialités sont liées à la construction.
Vous n'aurez donc pas besoin d'eux?
En principe, non.
Parfait.
Si vous êtes intéressé par mes services, il faudrait que je puisse me rendre sur place avec vous pour commencer mes investigations et définir le prix de l'intervention.
L'argent ne sera pas un problème. Dès le passage ouvert, vous serez réglé de ce que vous demanderez.
Pardon d'aborder ce volet, mais si vous n'y voyez pas d'inconvénient, nous avons pour habitude de nous faire payer en or. Pas de papier-monnaie, pas de titre.
Minguier agite la main.
Donnez-moi satisfaction et vous aurez tout l'or que vous voudrez.
Cette réaction étonne Vincent. Les hommes d'affaires n'ont pas pour habitude de distribuer leurs bénéfices avec une telle prodigalité, à moins que cela ne puisse leur en rapporter encore davantage. Vincent a noté l'écart entre la façon de s'exprimer d'Alfred Minguier, très douce, et l'acuité de son regard dur, auquel rien n'échappe. Il mesure le décalage entre son exubérante cordialité et sa réticence à répondre à des questions pourtant justifiées. Il existe une zone d'ombre chez cet homme. Ses clients en ont souvent. Au début, ils n'avouent jamais facilement la véritable nature de ce qu'ils veulent soustraire à la convoitise de leurs semblables. Mais, même en étant conscient de cela, Vincent trouve les réactions de Minguier ambiguës.
Quand souhaitez-vous que nous nous y rendions, monsieur Minguier?
Cela ne pourra se faire que de nuit. Mes journées sont trop occupées car ma présence est requise à la galerie des machines pour l'installation de l'exposition universelle.
Avançons, l'ouverture prochaine.
Mon associé et moi-même y présentons une toute nouvelle machine capable de produire 10 mètres de chaîne à l'heure.
L'instinct de Vincent lui souffle aussitôt que cette raison, bien que paraissant excellente, n'est pas la vraie.